Monsieur Jean Tapenda, bonsoir.
Bonsoir.
Bah bonsoir ici chez nous, hein.
Bonjour.
Bah oui, vous vous direz justement bonjour. Vous avez quelle heure là-bas en ce moment?
Bon, on est il est 12h34.
Voilà, vous êtes dans la ville de Salt Lake City, c'est dans l'état de Utah, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors Utah, c'est dans quelle partie des États-Unis? Vous pouvez nous situer un tout petit peu?
Bon, c'est à 3h de Las Vegas. Vous connaissez bien Las Vegas, la ville des casinos.
Oui, Las Vegas, on entend parler, oui.
On est juste à 3h.
C'est à l'ouest des États-Unis, voilà. Et vous êtes à Salt Lake City depuis combien de temps?
Ah, depuis une année exactement, je vivais avant tout en Amérique du Sud et je suis venu aux États-Unis pour faire une maîtrise en administration publique.
Voilà, donc vous trouvez en ce moment aux États-Unis pour une maîtrise et vous avez passé plus de 20 ans en Équateur, en Amérique latine.
Exactement. J'ai quitté le pays en 1984 et je suis allé en Suisse où j'ai vécu pendant 2 ans, en Suisse allemande. Et en 86, je suis allé en Équateur, en Amérique du Sud.
Et vous avez quitté le pays dans quelles circonstances pour vous retrouver en Suisse, après la Suisse, l'Équateur?
Je suis allé à l'université de Lubumbashi. À l'époque, c'était campus de Lubumbashi.
Oui, exactement.
Et voilà, je suis allé, j'ai fait la pré-polytechnique. Et après, j'ai fait la première année de sciences au département de géologie. Et en 82, j'ai eu des problèmes. J'étais de même heure de troubles à l'université.
Oui, avec ce qu'il y a eu à Lubumbashi.
C'est ça, l'université de Lubumbashi. Et on était deux copains qui étaient expulsés de l'université. Et après, je suis rentré à Kinsberg. Alors, j'ai vu ma vie académique interrompue. Alors, je me suis dit, bon, je vais en Suisse. Alors, je suis allé en Suisse avec l'intention d'étudier. Mais j'ai passé 2 ans à travailler dans la construction, dans des restos. Bon,
en parenthèse, Monsieur Capenda, on nous apprend dans votre biographie que quand vous êtes arrivé en Suisse, vous vous êtes malencontreusement trompé de train. Vous avez pris un autre bus qu'il ne fallait pas. Et là, vous avez rencontré des missionnaires qui ont peut-être changé, d'une façon ou d'une autre, le cours de votre destin ou de votre vie là-bas.
Exactement. Je me suis converti au mormonisme. C'est-à-dire, j'appartiens à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et voilà. Et quand je suis allé en Amérique du Sud, et j'avais toutes les portes ouvertes de m'installer dans ce bout du monde, ce petit pays coincé entre la Colombie au nord et le Pérou au sud.
Le Pérou, exactement.
Et voilà, j'ai pu refaire ma vie sociale.
Oui, mais au fait, Monsieur Capenda, pourquoi être parti en Équateur? La Suisse, c'est un beau pays, ça offre aux étudiants étrangers, à tous les étrangers qui arrivent en Suisse, en tout cas la plupart se retrouvent. Alors pourquoi avoir quitté la Suisse pour l'Équateur, l'Amérique latine, et puis pour un si petit pays? Qu'est-ce qui vous a attiré en Équateur?
Bon, c'était difficile la vie en Suisse, je vous le dis. Premièrement, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai présenté mon cas, j'étais réfugié, réfugié politique. J'ai présenté mon cas et à cette époque-là, on pensait que tous les Congolais qui venaient en Suisse étaient juste des réfugiés économiques. Alors, ils n'ont pas cru à mon histoire, que j'étais
réfugié politique.
Problèmes à Lubumbashi. Ils m'ont dit, bon voilà, on n'accepte pas votre demande de candidature, alors vous devez quitter le pays, sinon on vous refoule vers le Zaïre à l'époque. Et je me suis dit, bon, si je vais en France, si je vais ailleurs, en Europe, ce serait la même histoire,
Oui.
Recommencer les démarches, la vie politique. Et finalement, je me suis dit, bon, je claque les portes, je vais en Amérique du Sud. Alors, je suis allé à l'Équateur. Pourquoi? Parce que c'était facile d'y entrer. J'ai pas besoin de visa.
Ouais, rien que pour ça, oui.
Mais je pense qu'il y avait aussi une main invisible qui m'a amené en Équateur. Parce que j'ai pu faire des choses qu'aucun Congolais a fait.
On va en parler, justement, on va en parler tout à l'heure. Alors, nous sommes toujours dans votre parcours, Vous me dites que vous êtes arrivé en Équateur. Et finalement, vous avez adhéré à une université catholique où vous avez eu un diplôme en sociologie et en sciences politiques.
Exactement.
Et juste après, vous avez rencontré une équatorienne, Marianita Flores, qui est devenue votre épouse, et vous avez 2 enfants.
Oui, voilà, j'ai 2 enfants. Il y a une qui est ici à l'université avec moi, elle fait sa licence en psychologie, et j'ai une qui termine le lycée l'année qui vient, et voilà, c'est un peu ça mon parcours vers l'Amérique du Sud.
Ce qui est intéressant, comme j'allais le dire, Monsieur Capenda, c'est que vous avez réalisé, durant votre séjour en Équateur, plus de 20 ans, nous l'avons dit tout à l'heure, un grand travail sur la recherche généalogique, c'est bien ça?
Correctement.
Alors, dites-nous comment ça a commencé et comment vous êtes arrivé à faire un grand travail sur la généalogie des Afro-Équatoriens.
Alors, quand j'arrive en Équateur, les gens me disent, écoutez, Monsieur Capenda, vous venez d'Afrique, il y a des Noirs dans ce pays. Alors, il y a une vallée, et dans cette vallée, il y a des Noirs. Alors, j'arrive là-bas, et je vois des Noirs, il y a beaucoup de Noirs qui s'appellent Congo. Congo Uchala, c'était le nom le plus fréquent. Alors j'approche ces Noirs, je leur demande d'où ils viennent. Ils ne savaient même pas d'où ils venaient, ils ne savaient même pas ce que le nom Congo
voulait dire. Oui, exactement.
Alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai retrouvé qu'en 1700, les Jésuites ont importé les Noirs de la région Congo-Angola. Ils les ont amenés en Équateur pour travailler dans leur projet de la plantation de la canne à sucre. Et comme ils ne pouvaient pas donner leur nom aux esclaves, les esclaves ont conservé leur nom. On trouve des noms comme Congo, comme Tchala, comme Matamba, comme Kanga, comme Mairongo, qui vient de Mani Congo, c'est-à-dire le roi du Congo.
Le roi du Congo.
On trouve toute une série de noirs. On trouve des noms comme Kabindo, Kambinda. Hein, c'est-à-dire on trouve des noms qui le relie à leur terre d'origine, c'est-à-dire à la région Congo-Angola.
Alors,
voilà. Alors, j'ai fait cette recherche et l'UNESCO, au début, n'était pas intéressé à la recherche, mais quand j'ai publié la recherche, ils ont dit, alors maintenant, pouvez-vous écrire un dictionnaire lingala espagnol pour les Afro-Équatoriens? Alors, j'ai pu, publier un petit dictionnaire qu'on utilise dans les écoles, dans ces communautés afro-équatoriennes.
Donc ça veut dire que là-bas, ils ont quand même accepté que les Africains qui sont là-bas, pas tous, hein, disons quelques-uns qui sont afro-équatoriens, viennent de la région de l'Afrique centrale, notamment du Congo et de l'Angola. Et c'est peut-être dans ce sens-là que l'UNESCO a financé vos travaux pour que vous puissiez publier un dictionnaire en lingala espagnol, vous avez dit ?
Lingala espagnol. Et en fait, actuellement, beaucoup de Noirs en Équateur disent, nous sommes du Congo. Nous sommes des Luba.
Donc, ils ont accepté que ce que vous avez fait comme travail est vrai. Ils reconnaissent qu'ils sont d'ici, de chez nous.
Exactement. Exactement. Parce qu'il y a des documents des jésuites. Il y a des documents, il y a aussi les noms, hein. Parce qu'un Noir qui a le nom Congo, ne peut pas venir du Nigeria.
Non.
Un Noir qui porte de Kabindo ou Kabinda ne peut pas venir de... Vous voyez ça?
Du Maroc ou...
Voilà. C'est-à-dire, on a des pistes précises. C'est-à-dire, à partir des noms, on peut retrouver facilement les origines. Et après ça, j'ai fait une étude avec l'Université de Boston au Massachusetts. Et j'ai dû prélever de l'ADN, hein, à partir de la salive, de l'ADN des Noirs d'Équateur. Alors, ils ont comparé avec les données qu'ils avaient dans leur banque de données des ADN du Congo, et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de similitudes, et qu'en fait, ces Noirs, sur les plans génétiques, avaient quelque chose de similaire
avec du Congo.
Avec nous.
Donc, on va dire, en résumé, que lors de vos recherches, hein, vous avez pu prouver que vers 1700, il y a eu des communautés africaines qui ont été acheminées en Équateur comme esclaves. Et vous avez également découvert que l'ADN de quelques squelettes afro-équatoriens trouvés dans les New Hampshire ont des ressemblances génétiques avec ceux d'ici, hein, du Congo.
Exactement. Il y a encore une autre donnée, c'est-à-dire ces Noirs étaient esclaves seulement pendant 67 ans. 67 ans, c'est la plus courte durée de servitude en Amérique du Sud, en Amérique, parce que ils ont été amenés en Amérique du Sud en 1700, et en 1767, les Jésuites ont été expulsés du continent américain. Donc, ces Noirs ont pu garder leur identité. Hein. Les gens là-bas, ils jouent la marimba, ils jouent la wassa, ils jouent les kununo. Encore, vous imaginez, ils mangent le wandoul.
Mais c'est très bien en tout cas ce que vous avez fait, hein. Nous sommes très fiers de vous et puis nous félicitons du travail abattu. Mais dites-nous, monsieur Capenda, est-ce que dans vos recherches vous avez peut-être été en contact, vous avez rencontré dans des musées ou dans des universités des grands scientifiques qui ont prouvé que c'était vrai les thèses que vous avanciez?
En fait, je suis pionnier dans ce genre d'études, hein, parce que la plupart d'études sur les Afro-Américains ont été faits par des Européens ou par les mêmes Latino-Américains. C'est-à-dire que c'était le seul qui a pu relier les deux continents, c'est-à-dire l'Afrique, l'Afrique et l'Amérique.
Hein? Oui.
C'est-à-dire, il y a... Je connais personne au monde qui a fait ce genre d'études.
Non, moi non plus.
Hein? Non, je connais personne. Et en fait, il y a toute une grande... J'ai dû microfilmer la banque des données. Et voilà, on peut y accéder facilement par le biais de la société généalogique de Utah.
Mm-hmm.
Donc,
alors,
ouais. C'est la plus grande société généalogique du monde, hein, celle de Utah. Et il n'y a pas de documents similaires au mien.
Voilà, il y a une phrase que j'aime bien. Vous dites, if people can find the roots, they can come to know their potentiality. Donc, vous voulez dire par là que si les gens connaissaient leurs racines, d'où est-ce qu'ils venaient, ils pouvaient connaître leur potentialité, ce qu'ils peuvent faire, c'est ça?
Exactement. Et actuellement, il y a tout un éveil culturel, identitaire en Amérique du Sud, précisément en Équateur. Les gens maintenant, ils savent de quelle partie du continent africain ils proviennent. Hein? Chose qui est difficile de prouver aux États-Unis et dans d'autres parties du monde.
Exactement.
Mais c'est pas seulement ça.
Oui, et enfin, on nous dit que vous avez publié deux volumes, hein, en Équateur toujours, sur les prénoms africains. Ou c'est plutôt sur les prénoms afro-équatoriens.
C'est ça. Hein, c'est-à-dire les noms des descendants d'esclaves qui existent actuellement, qui vivent en ce moment et qui portent en ce moment des noms du Congo, de la région Congo-Angola. Hein, et je vais faire partie des listes électoraux. Il fallait fouiller les listes électoraux.
Mm-hmm.
Il fallait séparer les...
C'était un grand travail, je suppose.
Voilà, c'était énorme. C'était un travail énorme.
On va dire que vous avez réalisé, durant votre séjour en Équateur, un travail sur la recherche généalogique. Vous avez publié deux volumes sur les prénoms afro-équatoriens ou africains. Et puis, vous avez également sorti un dictionnaire lingala espagnol qui est utilisé dans les écoles en Équateur. Et puis, vous avez pu prouver que vers 1700, il y a eu des communautés africaines qui ont été acheminées en Équateur comme esclaves. Et enfin, vous avez découvert sur l'ADN de quelques ce qu'elle est afro-équatorien de ressemblance avec ceux d'ici au Congo. C'est vraiment un grand travail. Alors, Monsieur Kapenda, à quand la présentation de tous vos travaux en Afrique et particulièrement au Congo, dans votre pays?
Non, j'ai été au Congo au mois de juillet passé, à Lubumbashi. Hein, c'était juste pour revoir ma famille que je n'ai pas revue depuis
24
ans. Et je suis resté une semaine. Et là, je compte vraiment renouer mes contacts avec ma patrie. Hein, je vais rentrer.
Et puis, vous n'avez pas l'intention de publier vos travaux dans les universités d'ici?
Oui, je voudrais bien. Mais vous savez, les universités congolaises, il y en a trop peu qui sont sur Internet. Donc, c'est un peu difficile de disséminer ou de faire connaître les recherches qu'on fait dans d'autres parties du monde.
Oui, ici, on n'est pas sur place, c'est assez difficile.
Il faut que nos universités entrent dans l'ère informatique.
Exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur Jean Kapenda. Je signale que vous êtes en ce moment à Salt Lake City. C'est pas très loin de Las Vegas, hein, 3 heures de route de Las Vegas. Et l'État, c'est Utah, c'est en Amérique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne chance hein, pour la suite de vos travaux. Nous sommes vraiment fiers de vous.
Merci beaucoup. Hein. À plus tard, alors, quand je vais au Congo.
Ok, à bientôt au pays.